campagne. Bonjour. Direction le Grand Est, la région cette semaine est tout d'abord le Haut-Rhin, une moitié d'Alsace qui conserve le même nombre d'habitants d'ailleurs, dont une bonne part dans la communauté urbaine de Mulhouse. Un couloir de ville au nord de Mulhouse, Ribeauvillé, Colmar, Guebwiller et le parc des Ballons des Vosges, et au sud Alkirch dans le Sundgau, aux portes du Jura alsacien. Avec l'arrivée de l'été, l'Alsace communique sérieusement sur son attractivité touristique et sur ses capacités à accueillir les cyclistes et les vélos. Plus de 2 millions d'amateurs de vélos viennent profiter du réseau, ce qui fait du réseau évidemment de la vélorution, comme on dit, ce qui fait de l'Alsace le premier territoire cyclable de France. Sortir des sentiers battus, c'est possible en deux roues, mais c'est possible aussi lorsque l'on a une idée pour améliorer la vie de tous avec la mécanique des idées. La mécanique des idées, surtout le nom du gros coup de pouce que donne la Fondation de France au projet d'activité sociale, économique, culturelle à Mulhouse et dans son agglomération. Présentation de ce programme avec Jean-Damien Collin qui nous attend au bout du fil, délégué de la Fondation pour le Grand Est. Sauvegarder le patrimoine minier d'Alsace, on en parlera dans la seconde partie des carnets et aussi fréquemment, je suppose, dans le jeu des 1000 euros. En premier lieu, on va parler des mines de potasse. C'est l'enjeu que se donne l'association Calivi à Wittelsheim. Michel Kirchhoff sera notre guide dans cette seconde partie des carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Damien Collin, bonjour.
Bonjour.
Jean-Damien, délégué général de la Fondation de France Grand Est, pour une initiative rarissime encore, mais elle est valable pour l'instant sur le territoire de Mulhouse. Je dis pour l'instant, ça s'appelle la mécanique des idées, pour l'instant, parce que est-ce qu'il y a un projet d'extension du principe ?
C'est un programme expérimental de la Fondation de France qui revient à des fondamentaux de ce qu'est une fondation territoriale, une committee foundation, donc qui s'intéresse à un territoire et qui agit spécifiquement sur ce territoire. Mulhouse, c'est le petit dernier, on va dire, des 6 territoires qui expérimentent ce nouveau programme. Les premiers sont en train d'arriver dans leur 5e année dans le Nord, dans les Hautes-Alpes. Et donc il y a toutes les chances, vu les résultats de ce programme, qu'il y ait d'autres territoires par la suite qui se développent, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est encore défini.
Quand on lit l'annonce de ce programme, donc je cite, la mécanique des idées peut vous aider, vous êtes un habitant, un groupe d'habitants, un collectif, une association, une collectivité territoriale, l'action engagée par la Fondation de France sur le territoire de Mulhouse et son agglomération peut vous aider. C'est génial, mais alors il faut avoir une idée aboutie, ou alors vous nous aidez et vous aidez le porteur de projet, comme on l'appelle, à aboutir à une vraie finalisation.
Alors les deux fonctionnent, c'est-à-dire que le principe de ce programme, c'est de dire que c'est les habitants qui ont la solution pour leur territoire et qu'il faut savoir les écouter et qu'il faut savoir les accompagner, qu'aujourd'hui, financer, accompagner un projet, c'est pas uniquement lui apporter une subvention. Et donc, en effet, quelqu'un qui a simplement une idée, quelqu'un qui est tous les jours dans son canapé en disant « mais ça serait tellement bien de faire ça », mais qui ne sait pas comment le faire, ben il nous le propose. Et donc si cette idée correspond à un projet d'intérêt général et collectif, on va regarder comment l'accompagner. Alors suivant l'idée, ça peut prendre moins de temps, plus de temps, mais ça va être à nous de trouver comment pas à pas la personne arrive à être sûre qu'elle a envie de porter son idée, à être sûre qu'elle pourra y mettre l'énergie qui est nécessaire, et puis une fois que c'est en route, de trouver les chemins qui sont possibles pour pouvoir le faire. Donc on peut proposer une simple idée, comme on peut proposer un projet extrêmement structuré, qui est déjà complètement construit, avec son budget, avec des orientations très nettes, très claires, et donc les deux options sont possibles. Ce qui est important, c'est le territoire et les habitants de ce territoire.
Il n'y a pas un risque à savoir qu'il y a une sorte d'appel d'air à tout et n'importe quoi?
Ah ben, c'est là où le travail de la Fondation de France reste primordial. On reste un acteur qui sélectionne, qui cherche, qui fait émerger. Et donc forcément, il y a des oui, il y a des non. Après, nous, on a mis en place, et c'est extrêmement important sur ce programme, un temps avec les personnes à qui on va dire non. On va prendre un temps, soit collectif, soit individuel, suivant les cas, pour pouvoir expliquer les raisons qui ont fait qu'on a dit non. Et la personne peut continuer parce qu'elle pense qu'elle avait raison, et elle avait certainement raison dans son projet ou son idée, mais sans nous. Soit on aide à un travail collectif de réflexion et peut-être, pourquoi pas, de faire évoluer cette idée, ce projet.
Et qu'est-ce qui prime en faveur de la sélection, Jean-Damien ? C'est l'utilité sociale ?
Bah, de toute façon, c'est l'intérêt général. Donc, ouais. Est-ce qu'on est bien sur un projet d'intérêt général ? Quelle est la dynamique que ça déclenche sur le territoire ? Est-ce que c'est en train de tester ou d'apporter des choses, soit simples, soit compliquées, mais qui n'étaient pas possibles de mettre en œuvre à cet endroit-là ? On apporte beaucoup de confiance aussi. Je pense que ça, avec le recul qu'on a, pour les acteurs, c'est aussi se dire, mais au final, s'ils y croient, c'est que mon projet, je peux le tenter. Et ça donne les possibilités d'aller plus loin.
Mmh. Ça touche l'économie circulaire, l'entrepreneuriat collaboratif, la vélorussion aussi. Il y a beaucoup de projets, je vois, dans la liste de la mécanique des idées sur Mulhouse et les environs, qui sont déjà en cours de route, si on peut dire.
Ben, on a donc lancé l'année dernière. 2017, c'était la première année. Là, on est dans la deuxième année. L'année, elle est structurée par deux temps, on va dire. Il y a un premier semestre et un deuxième semestre sur lequel il y a possibilité de déposer les projets et les idées. Et on a aussi deux périodes d'accompagnement en première phase. Après, on est en train de construire les phases suivantes. Et donc, on est déjà à 51 projets reçus et on est à 36 idées reçues. Donc, c'est vrai que c'est une belle dynamique. Tous ne passent pas, hein, évidemment.
Bien sûr,
on fait des sélections, mais ça montre qu'on est sur un beau point de départ et on prend le temps. On est sur 5 ans sur ce territoire. Mmh. On a un budget à minima d'1 million d'euros à investir pour pouvoir aider les idées et les projets sur ces 5 ans. Et donc, d'année en année, c'est de rebondir, c'est de faire émerger un peu plus. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, on a un très beau départ, c'est vrai. Mmh.
La date limite pour la deuxième session, c'est le 10 septembre.
Oui, c'est ça. Ça peut arriver dès maintenant. Mais on a jusqu'au 10 septembre pour pouvoir déposer ces projets, ces idées. La prochaine période, même pour les idées d'accompagnement, sera à partir d'octobre.
Vous avez trouvé le lien, chers amis, avec la Fondation de France, fondationdefrance.org, nos liens aussi d'émission, et avec la mécanique des idées, par la même occasion, pour être encore mieux renseigné et vous lancer dans cette belle aventure. Merci Jean-Damien.
Ben, merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Les profils des nouveaux installés, les néo-ruraux, comme on dit souvent dans les départements de France, hors agglomération donc, évoluent. Nous remarquons un rajeunissement de cette population. Ce rajeunissement est parfois lié à un parcours professionnel original comme celui de Simon. Simon nous a écrit, il a 32 ans, et il écrit « Se reconnaître dans ce monde, je cite, de consommateur responsable, voire engagé. On cherche à acheter, écrit-il encore, dans des circuits courts, des produits frais, pour durer, tout en essayant de favoriser le marché local. » Simon, en réponse donc à cette démarche, cette attitude, est devenu taillandier. Autrement dit, il fabrique des outils ou les répare. Simon est donc désormais forgeron à Münster, dans un atelier ouvert grâce au concours de la mairie. Sa forge s'appelle la Maison Luquet et un plan d'aide financière vient d'être mis en ligne depuis quelques jours pour assurer les dernières installations. En attendant, Simon se forge, c'est facile à faire, se forge une clientèle pour laquelle il dessine sur mesure des outils garantis à vie. À ce titre, il annonce une taillanderie nouvelle génération 2.0 qui permet de procéder à l'étude de matériaux, à l'utilisation d'archives et à une communication plus efficace. La page Facebook de la Forge est bien avancée. C'est à Maison Luquet, vous allez trouver le lien. Et puis sur le compte KissKiss Bank Bank, il y a donc le petit appel au soutien pour terminer l'aménagement de cette forge de la Maison Luquet. Merci pour lui, merci pour Simon. Michel Kirchhoff, bonjour.
Bonjour Philippe. Je suis membre de l'association Calivi, qui est l'une des associations de sauvegarde du patrimoine des mines de potasse dans la région de Mulhouse, en Alsace. Nous sommes dépositaires d'un trésor qui est la collection minéralogique des mines de potasse, qui correspond à toutes les explorations qui ont été faites, en Alsace bien sûr, puisque c'est l'origine, mais à travers le monde. Aujourd'hui, cette collection, nous attachons à la conserver. Elle nous pose quelques problèmes, puisque le sel est quelque chose de périssable.
Oui.
Et nous n'avons plus les conditions qu'avaient les mines de potasse à leur siège, à l'origine, où d'une part il y avait peu de public qui passait, et d'autre part les bâtiments étaient chauffés sans aucun problème.
D'accord.
Aujourd'hui nous sommes installés dans un bâtiment historique du carreau Joseph Els à Wittelsheim. Le bâtiment vestiaire est le seul qui est encore debout avec une salle dépendue, chose qu'on retrouve également dans les mines de fer, dans les mines de charbon, etc. Mais c'est le seul en Alsace, donc c'est un lieu de mémoire. Ce bâtiment aujourd'hui appartient à la communauté de communes et du coup les moyens financiers ne sont plus tout à fait les mêmes.
Mmh. Alors, Michel, je vais vous poser quand même une question. C'est bien, vous faites tout le boulot. Mais Calivi s'écrit avec un K, quelle est sa signification?
Oui, alors Calivi c'est tout simplement, Cali c'est la potasse en allemand, simplement. Oui, c'est le symbole chimique K, comme Kirchhoff. Hein.
Oui.
voilà, et c'est le nom a été choisi par cette association, sa fondation, il y a 20 ans, 98, parce que le sel, c'est la vie. Et que la potasse, on la retrouve bien sûr dans les engrais composés NPK, mais on en a besoin pour des tas de choses. C'est un fondant vert riz, on le retrouve dans les médicaments. Voilà, on en a dans le corps. Voilà, d'où l'origine du nom de l'association.
Ouais. Alors, vous disiez tout à l'heure que l'exploitation commence vers 1910 ou en 1910. Elle s'achève à quelle période ?
Elle va durer jusqu'en 1966. En fait, pour revenir à l'histoire globale du bassin potassique, découverte de la potasse en 1904, fonçage de la bonne moitié des puits dans les années entre 1911 et 1913. Nous sommes en période allemande, puisque l'Alsace à ce moment-là est allemande. Après la Première Guerre mondiale, les mines passent dans le domaine public français. Ça devient les mines domaniales de potasse d'Alsace. Hein. Les compagnies d'origine sont dissoutes, puisqu'il y en a eu deux. Il y a les mines de potasse proprement dites, et puis la compagnie Cali-Sainte-Thérèse, avec les découvreurs de la potasse, qui vont perdurer l'exploitation jusqu'à ce que les mines domaniales rachètent également Cali-Sainte-Thérèse dans les années entre les années 50 et 60. Bon, pour revenir sur le site proprement dit, donc on a arrêté l'exploitation du carreau Joseph Fels en 1966, mais on a continué d'exploiter par le fond depuis le carreau voisin Amélie, qui est à quelques kilomètres. Donc les mineurs ont été reconvertis sur d'autres carreaux, et puis ça a continué jusqu'à en 2002 en fait, pas 2004, mais
oui.
On dit 2004, 100 ans d'exploitation.
Oui, c'est ce qu'on dit, 1904-2004. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez sur le site ?
Alors aujourd'hui, nous essayons d'être un lieu patrimonial, c'est-à-dire de conserver cette fameuse collection, la salle des pendus avec énormément d'objets liés au travail des mineurs. Nous avons des personnes ou des petits groupes, mais nous accueillons beaucoup de scolaires. Et là, ça va depuis les classes primaires jusqu'aux étudiants des écoles des mines. Et ce sont donc des anciens mineurs qui servent de guide, dont Pauli, qui est un monument, puisqu'il raconte ça avec ses tripes, sa vie de mineur.
Oui.
Ou des gens comme moi, qui n'ont pas travaillé en tant que MDPA, mais qui travaillaient aux mines de potasse en tant qu'entreprise extérieure. Ce qui fait que je connais bien les installations.
Et une dernière chose, Michel, les pires conditions, c'était lesquelles ? Les mines de potasse ou les mines de charbon ?
Je pense que les mines de charbon, c'est pire, parce que dans les mines de charbon, vous avez l'humidité. Ce qu'on n'a pas dans les mines de potasse. Nous sommes dans le fossé rhénan. Les températures sont relativement élevées puisque en descendant sur Ensisheim, appelé l'enfer, on descendait pratiquement à 1100 mètres. On passait au-delà des 50 degrés.
On descendait.
Donc température poussière. Mais par ailleurs, il n'y a pas les problèmes qu'on rencontre dans le charbon de silicose, etc.
Ouais, bien sûr.
Genre de maladies que les mineurs ont pu avoir.
Ouais. Merci en tout cas pour toutes ces informations de l'association Calivi, fondée en 98, dont Michel est membre, à un site dont vous allez trouver l'adresse à nos pages d'émission. Merci Michel.
De rien. Merci beaucoup Philippe.
Oh, je fais un pas de côté et je vais dans le Bas-Rhin à Strasbourg pour vous annoncer demain le 215e, normalement je me trompe pas, oui c'est ça, c'est le 215e Café Contact de l'Emploi, né justement en Alsace. Le principe est de réunir le plus régulièrement possible, spontanément, dans une discussion spontanée, des chefs d'entreprise et des demandeurs ou demandeuses d'emploi. Et on se retrouve autour d'un café, comme l'indique le nom, et on peut trouver un emploi. C'est le cas demain pour la proposition du 215e à 9h au Centre culturel de l'espace Klepso, 8 rue Georges Epstein à Strasbourg. L'adresse de l'association, c'est cafécontactemploi.fr. C'est demain à 9h. Il y a 17 entreprises, 100 postes à pourvoir.